dites quoi, Patricia?
Il n'est pas optimiste. Il est... Non, mais après, les auditeurs vont encore dire mais, oui, vous avez été méchante avec Alain Marathon. Bah,
dites-le.
J'ai dit, il n'est pas optimiste, il est benêt.
Oui, mais moi, je vais c'est de l'amour.
C'est de l'amour. Oui. Je vais dire que vous me traitez de vieux Mérou dans son bocal.
Vous savez qu'on a le micro, là.
Bien, Alain Marathon, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, on parle d'un concours. Un concours pour désigner le plus bel arbre de France.
Eh oui, ce concours est organisé par le magazine Terre Sauvage et l'Office National des Forêts. Avant d'annoncer les résultats, sachez qu'il est possible à tous, famille, école, commune, entreprise, association, de proposer un arbre. Le jury se réunit ensuite et s'intéresse au végétal pour sa beauté bien sûr, mais aussi pour son importance culturelle, affective, sociale, symbolique et historique.
Alors ce concours décerne 3 prix, le premier étant celui du public.
Et le vainqueur est l'IF du Jardin des Ifs. Rarement un jardin n'aura d'ailleurs aussi bien porté son nom. Un jardin situé à Gerberoy dans l'Oise. Cet arbre, aussi appelé Yves Grotte, est taillé en forme de dôme et il est, vous vous en doutez, la vedette de ce jardin à la française du XVIIe siècle, orné d'une multitude de taupières. Je rappelle pour ceux qui l'ignorent encore, qu'une taupière, c'est là la manière de sculpter un végétal et de lui donner généralement une apparence géométrique, voire amusante.
Taupière avec un O.
Oui, tout à fait. Ne pas confondre avec la taupière, qui est le monticule de terre produit par la taupe qui vit sous terre. Tout à fait. Alors, pour être précis, notre IF est constitué en fait de 6 arbres différents, dont les branches se sont mêlées au fil du temps, je dirais même au fil des siècles, aidées bien sûr par des jardiniers talentueux. Cet IF est apprécié des enfants, car il est devenu une cabane où il est possible de se cacher, même si l'on est venu à 10. Enfin, sachez, Patricia Martin, que l'endroit est réputé pour les déclarations d'amour.
Ah, qu'est-ce qu'on y va?
On va parler du prix du jury, il a été décerné au Sophora du Japon, du château de Montry, c'est en Seine-et-Marne.
Et oui, un jury présidé par notre ami Denis Chessou, que l'on embrasse. Ce Sophora est vieux de plus de 200 ans et il a été labellisé remarquable le 15 juin. Et il en a connu des misères. Vers 1930, ce Sophora est couché à terre après que son tronc principal se soit creusé de l'intérieur. Mais il continue de vivre et de bien vivre. Et sa ramure aujourd'hui couvre 1000 mètres carrés, ce qui n'est pas rien. Il faut également savoir qu'une légende prétend que toute personne qui cherchera à couper cet arbre mourra prématurément. J'aime bien ce genre de légende.
Tiens donc. Le prix du coup de cœur, il a été attribué au chêne de la réserve naturelle du Bout du Lac. C'est à Doussard, en Haute-Savoie.
Et oui, et l'heureux élu est un gamin d'à peine 2 siècles, mais il est beau, si beau qu'il est devenu l'emblème de la réserve naturelle. Alors, pour tout savoir sur ces 3 arbres, l'idéal est d'aller sur Internet à la page Arbre de l'année 2017. Et pourquoi ne pas en profiter pour réfléchir déjà à celui de 2018. Et quand on parle de l'arbre de l'année, eh bien je pensais à Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine se promène un jour dans les jardins, on prétend que ce sont ceux de Versailles. Pourquoi pas? Ce qui est sûr, c'est qu'il voit des jardiniers en train de planter des arbres, et il va noter sur ses carnets que ceux qu'ils ont plantés vivent 1000 ans et plus. Eh bien, c'est ce que je souhaite à ces 3 arbres, qu'ils vivent eux aussi 1000 ans et plus.
Les questions des auditeurs à présent et vos réponses, vos conseils, Alain Marathon. D'abord, cette question de Audrey. Existe-t-il des arbustes suffisamment épineux pour empêcher les chiens de la franchir?
Ah, c'est pas simple. Dans la nature, il y a ce qu'on appelle les ronciers, là où vraiment ils sont impénétrables pour les chiens, y compris les chiens de chasse. Et il est vrai que même les renards ont parfois du mal à s'y aventurer. Mais il est bien difficile de reproduire chez soi des haies de protection aussi efficaces, d'autant plus que les chiens sont courts sur pattes, peuvent fouiner un petit peu partout. Alors, il y a 2 sortes de chiens. Il y a ce qu'on appelle aimablement le toutou à sa mémère, qui effectivement, en présence d'aubépines, de berbéris, de piracanta, de rosiers grimpants, va faire demi-tour pour éviter d'avoir quelques soucis. Et puis après, il y a par exemple les chiens de type chasse à courre, que bien entendu sont menés par des gens qui respectent généralement pas grand-chose, et qui vont donc faire les dégâts assez démentielle. Oui, je vois que vous sourciez quand je dis pas grand-chose. C'est Théodore Monod qui disait, je cite, « Un pays qui n'ose pas interdire la chasse à courre, les combats de coqs ou les courses de taureaux a-t-il le droit de se prétendre civilisé ? On peut en douter. Je pense donc qu'effectivement, quand on ne respecte pas un jardin, on n'est pas vraiment civilisé. »
Les conseils et les points de vue maintenant.
C'est le point de vue, mais
d'Alain Barone, mais pourquoi
nous,
pas
nous sommes
bien
en fin d'année, l'occasion de faire des jeux.
C'est très bien comme ça.
Voilà, tout à fait.
Hervé vous dit qu'il a un hortensia dans son jardin et il aimerait le déplacer de quelques mètres parce que cette plante ne reçoit quasiment pas de soleil et qu'il devient peu visible.
Alors, question toute bête, comment cet hortensia se conduit-il aujourd'hui? Est-il heureux là où il est? Alors, l'hortensia a quand même besoin de lumière. Vous savez, on confond souvent les plantes d'ombre et les plantes d'obscurité. Il ne faut pas tout confondre non plus. L'hortensia a besoin de lumière. C'est pas une plante de terre de bruyère, l'hortensia, contrairement à ce qu'on lit souvent. Il peut accepter une un pourcentage de bruyère, mais il va surtout se plaire dans une terre de terreau. Il n'aime pas trop, c'est vrai, le soleil violent, mais il a besoin de lumière. Donc, on peut déplacer l'hortensia maintenant, si on prend soin, bien évidemment, d'emmener avec les racines de la terre en quantité suffisante. On n'oubliera pas, même s'il a beaucoup plu, d'arroser copieusement après la transplantation. Et je rappelle que la transplantation, c'est comme pour un être humain, comme si vous-même, je vous le souhaite pas bien sûr, et que demain vous deviez être transplanté, eh bien c'est un risque.
Édouard, il a un problème, Édouard, parce qu'en 1985, il a planté un érable sycomore, mais Édouard s'aperçoit que l'arbre est maintenant trop près de la terrasse. Doit-il craindre des racines trop profondes pour les fondations?
Il ne faut pas trop fantasmer sur la dangerosité des arbres, mais il faut se souvenir que quand on plante un arbre, eh bien le temps passe vite. Alors vous, vous êtes très jeune, Eric, mais le temps passe très très vite. Alors on est tombé amoureux d'un érable sycomore, on a décidé de l'installer dans le jardin, là où on pense qu'il sera le plus beau, et puis les années passent, elles passent vite, beaucoup plus vite, et les branches peuvent devenir gênantes. Alors c'est pas très grave, on va les couper, et puis les racines, on se demande si elles ne font pas de dégâts. Il est bien rare que les érables sycomores produisent des dégâts, attention peupliers, qui eux en font véritablement. Alors que faire? Eh bien oui, il est possible de couper les racines qui sont véritablement gênantes, celles qui vont faire des obstacles sur les allées. Oui, il est possible de couper les branches qui vont toucher la façade, mais il faut se souvenir, quand on plante un arbre, qu'il faut impérativement qu'il puisse aller au terme de sa vie. Il n'y a rien de plus triste que de couper un arbre au bout de 30 ou 40 ans, parce qu'un arbre, c'est aussi porteur de souvenirs, c'est de l'émotion. Donc on se rappelle qu'un arbre, quand il va être planté, doit pouvoir pousser librement et sans contrainte.
C'était les conseils et la science d'Alain Baraton avec sa main verte. À demain, Alain.
À demain.